Et on va voir ce soir l'Église nationale en Allemagne. L'Allemagne, au XIXe siècle, l'Église catholique allemande a été marquée, on en a déjà parlé, on va y revenir, par ce qu'on appelle le Kulturkampf. L'Allemagne du XIXe siècle était au début du siècle un conglomérat de petites entités territoriales, principautés, et petits royaumes, etc., villes libres et choses semblables, qui avaient une unité formelle qui était incarnée par l'empereur, depuis donc Charlemagne, c'était une structure qui remontait à cette période-là, et qui en principe était un État fédéral sous la direction de l'empereur qui résidait à Vienne et qui était donc descendant de la maison des Habsbourg. À partir du XIXe siècle et après le congrès de Vienne en particulier en 1815, un mouvement national est né en Allemagne. Ce mouvement s'est cristallisé autour de la Prusse, qui était un des plus grands États de l'Allemagne, l'État montant, et qui est devenu en quelque sorte le point focal autour duquel est née alors une idée nationale allemande très très forte. C'était l'époque aussi où les États d'Europe, qui n'étaient pas encore des États centralisés, avaient tendance à le devenir. C'est ce qui se passera par exemple pour l'Italie, qui était à peu près dans la même situation que l'Allemagne. Et l'Allemagne en particulier était marquée par un courant, ce qu'on appelait le courant pan-germaniste, qui avait comme caractéristique essentielle d'être extrêmement nationaliste. Il y avait un nationalisme allemand qui préparait d'ailleurs Hitler d'une certaine manière, la civilisation allemande, la culture allemande, le peuple allemand était considéré comme le nec plus ultra, comme ce qu'il y avait de mieux au monde. Et les Allemands se rendaient compte que si l'Allemagne s'unifiait, si tous ces petits États s'unifiaient, alors l'Allemagne deviendrait la puissance essentielle en Europe et que l'équilibre européen serait totalement bouleversé. Un homme en particulier a bien vu cela et veut en quelque sorte de concrétiser cette unité allemande. C'était le chancelier de Prusse, Otto von Bismarck, qui s'est mis en devoir de réaliser l'unité allemande. L'unité allemande, il la voyait au travers de deux événements essentiels. D'une part, se libérer du joug des Habsbourg en faisant sécession donc avec l'Empire autrichien. Et puis, donc c'était la première étape qui ferait que tous les États allemands allaient se fédérer autour de la Prusse. Et ainsi en fut-il, la guerre éclata entre la Prusse et l'Autriche. En 1866, la Prusse fut écrasée dans cette même année, l'Autriche fut écrasée par la Prusse à la bataille de Sadowa. Et le résultat est que le roi de Prusse, c'était la maison de Hohenzollern, a été proclamé empereur d'Allemagne. Et ainsi est né l'Empire allemand. Cet empire, après 1868-1866, était encore un empire assez lâche, et Bismarck avait compris que pour cimenter cette unité, il fallait une deuxième guerre. Et cette deuxième guerre, elle ne pouvait avoir lieu qu'avec la France. L'empire français, qui était à cette époque-là sous la direction de Napoléon III. Et c'est ainsi que Bismarck s'arrangea pour faire en sorte que la guerre éclate entre la France et la Prusse en 1870. Et à la suite de cette guerre, la France, comme on le sait, fut écrasée, tandis qu'elle perdait donc deux provinces, l'Alsace et la Lorraine, qui étaient rattachées à la Prusse. Bismarck était donc un homme extrêmement centraliste, et qui tendait à supprimer tout ce qui pouvait s'opposer justement à l'unité allemande. Et en Allemagne, il y avait ce qu'ils considéraient comme un obstacle important à cette unité politique et, pourrait-on dire, culturelle. C'était justement l'Église catholique, dans la mesure où l'Église catholique était une institution supranationale. L'Église luthérienne, les églises protestantes ne lui posaient pas problème parce qu'elles étaient des églises nationales, qu'il était donc facile de contrôler par le pouvoir politique. Par contre, l'Église catholique, surtout à l'époque qui nous intéresse, à l'époque où justement on allait vers Vatican Ier, vers l'infaillibilité pontificale, n'est-ce pas, l'Église catholique échappait à ce contrôle. Et Bismarck donc désigna l'Église catholique comme une force obscurantiste, anti-allemande, qu'il convenait d'écraser. Et Bismarck lança donc, pour ce faire, ce qu'on appelle le Kulturkampf, c'est-à-dire combat pour la culture. La définition totale était celle-ci, combat contre l'obscurantisme et pour la culture. L'obscurantisme, c'était l'Église catholique, et la culture, bien entendu, c'était la culture pan-germanique dont Bismarck était l'apôtre principal. Et un des reproches qui était aussi formulé à l'encontre de l'Église catholique, c'était que l'Église catholique était contre la liberté. Dans le pan-germanisme allemand, il y avait aussi donc toute la culture des Lumières qui avait profondément marqué l'Allemagne, et le libéralisme. Bien sûr, la Prusse, l'Empire allemand, comme on l'appelait à cette époque-là, n'était pas un État démocratique, par exemple comme l'étaient la France et l'Angleterre à cette période-là, mais un État véritablement autocratique. Mais la culture qui était prônée était une culture que l'on voulait libérale. Par libéralisme, on entendait une subjectivité sans limite, qui s'opposait donc au religieux, au christianisme dans son ensemble, et particulièrement justement à l'Église catholique. C'était l'esprit du romantisme, le romantisme qui marquait justement l'Allemagne de cette période-là, et qui allait de pair justement avec ce subjectivisme exacerbé que nous avons déjà évoqué la dernière fois. Bismarck s'est arrangé pour exacerber des tensions qui pouvaient exister en Allemagne. L'Allemagne était un pays à cette époque-là, surtout après son unité, la Prusse était, disons, 90% protestante, mais le reste de l'Allemagne c'était beaucoup plus nuancé dans le reste de l'Allemagne. Les pays rhénans, par exemple, le sud de l'Allemagne, la Bavière, étaient plutôt des pays catholiques, si bien qu'on était à peu près à cette période-là, à peu près à 55% de protestants, 45% de catholiques. Donc c'était presque moitié-moitié, si on veut, n'est-ce pas? De telle sorte que des frictions éclataient d'une manière quasi inévitable, surtout à cette période qui n'avait pas encore vu l'œcuménisme entre protestants et catholiques. Par exemple, au sujet des mariages mixtes. À cette époque-là, le droit canon catholique était extrêmement net. Dans le cas de mariage mixte, le conjoint non catholique devait signer un papier pour que le mariage soit reconnu valide, dans lequel il s'engageait à faire en sorte que ses enfants soient élevés dans la religion catholique et romaine. Alors, il y avait évidemment des protestants qui refusaient cela. Et dès 1836, par exemple, la papauté rappelle cela, que les enfants issus de mariages mixtes doivent obligatoirement être élevés dans la religion catholique. Bismarck n'a pas hésité un seul instant. Quand les évêques qui ont voulu faire appliquer cette mesure étaient emprisonnés. Pas de détails, n'est-ce pas? C'était comme ça. Alors c'était par exemple un des casus belli qui marquait justement ce qu'on appelait le Kulturkampf. Bon, cette affaire des mariages mixtes a duré 10 ans. En 1846, Frédéric Guillaume, le roi, a mis fin à la querelle et a abandonné les préventions de l'État de légiférer en pareille matière. Il y avait aussi un ministère des cultes qui surveillait les choses d'une manière extrêmement serrée, et la section catholique du ministère des cultes n'était pas tendre vis-à-vis du catholicisme. En 1848, une constitution a été donnée à la Prusse qui, en principe, reconnaissait l'indépendance de toutes les autorités religieuses. Mais en fait, c'était dans les textes, dans la réalité, il en allait bien autrement. Et jusqu'en 1871, l'Église catholique a été inquiétée, a été... persécuté, peut-être un grand mot, mais enfin tracassé par le pouvoir politique. Bismarck avait eu cette forte parole. Il avait dit ceci, ni ne craignez rien, ni, comment, ni en physiquement, ni spirituellement, nous n'irons pas à Canossa. C'est-à-dire, vous savez, le fameux épisode où l'empereur Henri IV était allé demander pardon au pape et obtenir sa grâce en restant 3 jours à pieds nus dans la neige devant le couvent de Canossa dans lequel se trouvait le pape. C'était évidemment le symbole même de l'humiliation du pouvoir politique par l'Église. Et Bismarck avait fait le serment de ne pas aller à Canossa. Bon, en fin de compte, il ira à Canossa. Hein, et finalement, il jettera l'éponge et il va se casser les dents devant la détermination catholique. Et en 1871, eh bien, c'est la fin du Kulturkampf. Et puis l'Église catholique retrouve en quelque sorte ses prérogatives. L'Église catholique se trouvait confrontée, elle aussi, avec ce problème de l'individualisme, donc marqué par le romantisme, et la recherche du bien, finalement, se confondait avec la recherche du plaisir. Le bien était assimilé avec le plaisir. Et la religion libérale qui était prônée par certaines églises protestantes, en particulier en Allemagne, se confondait avec la recherche du bonheur personnel, du plaisir personnel. Et cette évolution a conduit la plupart des pays européens, marqués par le romantisme, à la déchristianisation. On a vu se développer, notamment en Allemagne, une atmosphère saturée d'incroyances qui a été relayée ensuite par le marxisme, le socialisme d'abord, puis le communisme ensuite, et qui a tout ramené au domaine économique. Prétendant que ce qui menait le monde, c'était le travail manuel. L'ouvrier avait dans sa main l'avenir du monde et il s'agissait de créer une société universelle au-delà des États qui serait totalement nouvelle, de poursuivre l'œuvre de la Révolution française, non plus dans le domaine seulement de l'égalité théorique des droits juridiques, mais sur le plan de l'égalité pratique, sur le plan économique. Des syndicats se sont créés, ça a été le début donc des mouvements ouvriers, etc. Le pape Léon XIII a condamné les mouvements ouvriers dans une encyclique célèbre qui s'appelle Rerum Novarum, qui est venue apporter de l'eau au moulin, justement, de gens comme Bismarck. Malheureusement, n'est-ce pas, ces choses ont été utilisées par Bismarck dans un autre esprit. Bismarck est allé jusqu'à fermer des séminaires, n'est-ce pas? Restreindre la liberté de parole jusque dans les églises, chasser les jésuites, ça a été une des premières mesures qui a été prise par Bismarck, et puis aussi dans une deuxième charrette, si j'ose dire, tous les ordres non charitables, estimant que les ordres contemplatifs, par exemple, ne représentaient rien du tout et qu'ils n'avaient rien à faire en Allemagne, donc il s'agissait de les chasser. C'est l'État qui s'occupait de l'éducation des membres du clergé. Voyez-vous l'ingérence intolérable de l'État dans les affaires intérieures de l'Église. Et puis, Bismarck dénonce le concordat. Le pouvoir ne paie plus le salaire du clergé. On institue le divorce, qui est contre aussi la vision bien entendu catholique. Et alors, ce qui va provoquer l'échec finalement de ce Kulturkampf, c'est que les masses ne suivent pas. Bismarck en fait trop, Et le peuple va s'opposer, va se révolter contre ces mesures. En 1895, le pape condamne le Kulturkampf. Des évêques prennent parti fermement contre Kulturkampf. Ils sont chassés. Des prêtres aussi sont chassés, sont frappés d'amende. Et la riposte catholique se manifeste en ceci, qu'un parti catholique se crée en Allemagne, qui se fait élire dans les deux chambres qui sont donc l'émanation du suffrage universel, le Reichstag et la Diète. En 1879, Pie IX meurt et lui succède Léon XIII, 1878-1903, qui considère que sa mission est d'adapter l'Église au monde moderne. Voyez-vous, c'est pas depuis Vatican II que ce problème se pose à l'Église catholique. Et finalement, ce n'est que en 93, 1893, que la querelle du Kulturkampf s'apaise définitivement. Les protestants seront aussi un petit peu inquiétés par le Kulturkampf, moins que l'Église catholique, mais finalement, les protestants qui voudront rester fidèles auront aussi des mailles à partir avec le pouvoir. Et ils vont aussi riposter un peu comme l'Église catholique en créant des ligues évangéliques. Des ligues évangéliques qui auront pour but justement de s'opposer aux excès du Kulturkampf. Au moment où le Kulturkampf s'achève, évidemment, aussi eux sont hors d'affaires. L'Église catholique, à cette période-là, sous Léon XIII en particulier, va connaître un grand essor. Il y a aussi, c'est l'époque des grands mystiques, par exemple la fameuse Thérèse de l'Enfant Jésus, 1853-1897, le père Charles de Foucault, 1825-1916, qui fonde l'ordre des Pères Blancs, l'ordre missionnaire. Un autre écrivain, parmi ceux que nous avons évoqués déjà dernière fois, c'est Léon Blois. Et l'Église catholique se considère comme l'éducatrice des peuples, ce prétention qu'elle n'a d'ailleurs pas abandonnée de nos jours. Et Léon XIII, au nom de cette mission qui est la sienne, du moins qui est celle de son Église, veut réconcilier l'Église et la société moderne. Lorsqu'il est élu, Léon XIII est âgé de 69 ans, c'est un thomiste, spécialiste donc du droit canon. Et non seulement il va ferrailler dans toutes sortes de coins. C'est un pape extrêmement autoritaire. On peut dire que c'est un grand pape dans la perspective catholique, n'est-ce pas? Un petit peu toute proportion gardée comme Jean-Paul II aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il va non seulement lutter contre le modernisme, contre le socialisme et son avatar communiste, mais également contre le scientisme. Dans ce désir d'adapter l'Église au monde moderne, Léon XIII se trouve confronté avec la question de la science. La science est basée sur la raison. Et par conséquent, de ce primat de la raison découle le modernisme. La raison est la norme suprême, n'est-ce pas? Et la révélation doit être jugée à la lumière de la raison. Ça, c'est l'hérésie moderniste que va condamner Léon XIII, en réaffirmant, avec raison, que la révélation est supérieure à la raison. Et que lorsque révélation et raison sont en opposition, c'est la raison qui doit céder le pas devant la révélation. Et Léon XIII comment dirais-je, est extrêmement méfiant vis-à-vis de toutes les découvertes des sciences, et il n'est pas le seul. Et une des raisons qui entraînera aussi, par exemple, la division des vieux catholiques dont nous avons parlé la dernière fois après Vatican I, c'est pas sous la direction d'Ignace de Linguer, c'est aussi cette question de la science. De Linguer trouvera que l'Église catholique a fait trop de concessions à la science, notamment les successeurs de Léon XIII. Et la science, le modernisme est marqué par le subjectivisme, par l'individualisme, par la critique historique. Pour cette raison, l'Église catholique ne peut absolument pas accepter justement le modernisme. Le successeur de Pie IX, déjà c'était avant, je pense, il y avait un, je ne sais même plus exactement comment ça marche, si Léon XIII était après Pie X, je ne pense pas, Pie X d'abord, je pense, avait aussi déjà condamné donc, le modernisme dans ce qu'on appelle le Syllabus. Syllabus, c'était aussi une encyclique papale dans laquelle était dénoncée l'indifférence à l'égard de l'Église, dans laquelle on ne voyait plus qu'une institution humaine. Le Syllabus s'élevait aussi contre la liberté de conscience et la liberté de presse. Bien entendu, ça. C'est aujourd'hui quelque chose qui est abandonné par l'Église catholique, mais à cette époque-là, l'Église catholique était très opposée à la notion de liberté de conscience. Le syllabus était en fin de compte un résumé, entre guillemets, c'était comme ça qu'il se présentait, un résumé des principales erreurs de notre temps. Parmi ces erreurs, il y avait également le panthéisme, le naturalisme, le nationalisme, c'était l'époque du Kulturkampf, la notion d'église nationale pour la même raison, la morale autonome, ça s'appelait la morale laïque à cette période-là, le libéralisme sous toutes ses forces, sous toutes ses formes, et la liberté non seulement de presse, mais également de culture. Le syllabus rejette la culture moderne qui rejette le surnaturel parce qu'elle rejette le surnaturel. Le nationalisme est considéré avec raison comme une manière hérétique de penser. Le pape voit dans cette hérésie-là l'agnosticisme de Kant qui en est la base, selon laquelle la raison ne peut absolument pas tenir compte des choses surnaturelles. Il rejette aussi l'évolutionnisme qui commence à pointer aussi à cette période-là, pour laquelle tout est en devenir, et si on pousse à fond cette doctrine, et si on l'applique aux religieux, ça veut dire aussi que les dogmes sont changeants, chose évidemment que l'Église catholique ne peut en aucune manière accepter. Alors, le remède proposé, c'est le retour à la haute scolastique de Thomas d'Aquin. Remède donc de retour au Moyen-Âge, finalement. Et évidemment, ensuite, Bismarck et les tenants du Kulturkampf en Allemagne ont beau jeu de dire, voyez-vous, l'Église catholique est vraiment le bastion de l'obscurantisme, parce que face justement aux idées modernes, on n'a rien d'autre à opposer que Thomas d'Aquin. Retour donc au XIIIe siècle, c'est pas possible, quoi. Et c'était le rejet. Et c'est certain, n'est-ce pas, que le syllabus, le De Rerum Novarum, toutes les grandes encyclopédies, les grandes encycliques, je veux dire, de cette période-là, étaient quand même des encycliques et des positions extrêmement figées, extrêmement réactionnaires, qui n'ont pas contribué à l'évolution de l'Église catholique dans le sens de ce que souhaitaient les papes, finalement l'ouverture au monde moderne. Et c'est pourquoi, justement, Vatican II devra reprendre le problème pratiquement à zéro, parce que finalement, ces encycliques n'ont fait que bloquer le problème. Alors, si sur le plan du dialogue avec le monde moderne, on peut dire qu'on arrive à une impasse au XIXe siècle, ça ne veut pas dire que l'Église catholique du XIXe siècle ne connaît pas une évolution extrêmement importante. Il y a un renouveau de l'apostolat, l'apostolat des laïcs en particulier. Au niveau du peuple catholique, il y a une très très grande prise de conscience des exigences de l'apostolat. Et c'est ainsi, par exemple, que se crée la Congrégation de Marie. Des mouvements d'évangélisation des étudiants, en même temps qu'il y a des tendances aussi qui sont pas toujours très 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 orthodoxes. Par exemple, il y a déjà un mouvement qui préconise le mariage des prêtres, hein, c'est pas la fin du célibat, qui est né à cette période-là. Et sur le plan politique, alors l'Église est très très à droite. L'Église catholique est très très à droite. Le seul régime qui trouve grâce à ses yeux, c'est l'absolutisme royal. Et l'Église catholique condamne les systèmes démocratiques, républicains en particulier, et la bête noire de l'Église catholique dans ce domaine-là, après la guerre de 1870, sera le régime athée, agnostique, enfin diabolique, de qu'est la Troisième République, aux yeux de l'Église catholique. Et pendant très longtemps, les catholiques français véritablement engagés seront royalistes. Aujourd'hui, ça a évolué, il en reste encore un petit peu, mais à cette époque-là, c'était très fort. C'est aussi en 1869 que naît la dévotion au Sacré-Cœur. On institue le mois de Marie, le rosaire, la fête Dieu. On organise des congrès eucharistiques et on accorde beaucoup d'importance aux apparitions. On a parlé de Lourdes la dernière fois, c'est le moment où Lourdes apparaît. Il y a aussi l'apparition d'une mystique qui s'appelle Catherine Emmerich, qui est une stigmatisée, qui a des visions extraordinaires. Hildegarde aussi, n'est-ce pas? Et puis, bon, qui est une sainte du Moyen-Âge, on diffuse à très très grand nombre ses visions, ses révélations, etc. ce qui est souligné très fort par l'Église catholique à cette période-là, c'est que l'autorité de l'Église passe avant les opinions personnelles. Et là, on prend de plein fouet, évidemment, l'évolution du monde moderne. C'est aussi l'époque où le catholicisme touche toute une aile de l'Église anglicane en Angleterre. Et en particulier, l'aile catholicisante de l'Église anglicane finira par rallier l'Église catholique sous la direction du cardinal Newman, qui sera nommé cardinal pour son geste, n'est-ce pas, qui était un prédicateur, un écrivain, un artiste, et un homme d'une haute intelligence, bien qu'étant originaire d'une famille rurale, et qui deviendra un des favoris de Léon XIII, proche de son entourage, et qui aussi sera à fond dans les idées de Léon XIII. Voilà donc, si vous voulez, comment on peut rapidement schématiser l'évolution de l'Église catholique au XIXe siècle. Voyons brièvement maintenant ce qu'il en est de l'Église d'Orient, c'est-à-dire l'Église orthodoxe. Le XIXe siècle est l'époque où les pays balkaniques vont secouer le joug musulman, le joug turc. Le premier des pays qui va suivre cette évolution-là, c'est la Grèce. La Grèce qui va mener une guerre d'indépendance contre les Turcs avec l'appui des pays européens. Et notamment, l'âme de la révolte sera l'Église catholique, l'Église orthodoxe, je veux dire. L'Église orthodoxe mène le combat pour l'indépendance politique de la Grèce. Puis, lorsque la Grèce a regagné son indépendance, les Roumains, qui sont aussi orthodoxes, les Serbes et les Bulgares vont aussi suivre la même évolution. Bien entendu, ces peuples-là sont des peuples qui sont de petits peuples, faibles, et qui ne peuvent mener à bien leur entreprise d'indépendance que pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a un affaiblissement de la puissance ottomane, et deuxièmement, grâce à l'alliance justement des grands pays européens qui vont soutenir indirectement et même directement les luttes de libération nationale de ces pays orthodoxes. Indirectement, ça veut dire diplomatiquement. Directement, ça veut dire en envoyant des troupes, en envoyant des armes. Les troupes, ce sont en principe des volontaires, mais bon, parfois, il y a des volontaires qui sont un petit peu désignés. Et puis même des interventions directes. Par exemple, la flotte britannique interviendra contre la flotte turque pour être aux côtés de la Grèce. Et c'est ainsi que naît la question d'Orient, le problème des Balkans, qui deviendra un problème brûlant au début du siècle suivant, c'est-à-dire au début de notre siècle, et puis qu'il le reste encore aujourd'hui, mais, comme on le sait, avec les problèmes actuels. Dans ces pays-là, l'Église orthodoxe, qui était très figée, va se trouver aussi confrontée avec, pour la première fois, la pénétration de protestants. Les pays qui vont soutenir les pays balkaniques seront au nombre de trois essentiellement, la Russie, puissance orthodoxe, la Prusse, puissance protestante, l'Autriche, puissance catholique, et l'Angleterre, d'une manière un peu plus lointaine. La Hollande aussi va prendre part d'une manière indirecte à ces, à ces luttes. Et là, ce qui va se produire, c'est que il va y avoir une influence du protestantisme dans ces pays-là. Et les premières implantations protestantes vont naître justement dans les pays orthodoxes, dans les pays balkaniques. C'est surtout les Mennonites qui vont être le fer de lance justement de cette pénétration-là. En Prusse, par exemple, les Mennonites vont avoir de très gros problèmes. Les Mennonites sont en effet des pacifistes qui prennent à la lettre le serment sur la montagne, qui refusent le service militaire. La Prusse, à cause de son nationalisme exacerbé, va être un pays très vite militariste. Et dans la mesure où les Mennonites vont refuser de porter les armes, ils vont être confrontés à aussi une sorte de Kulturkampf en ce qui les concerne. Si bien que beaucoup d'entre eux vont quitter la Prusse et migrer dans des pays autres, par exemple en Russie. La Russie est alors dirigée par Catherine II, l'impératrice Catherine II, et les Mennonites demandent à Catherine la liberté de s'installer en Russie, dans des endroits déserts. La Russie est un immense pays très peu peuplé à cette période-là. Et contre l'exemption du service militaire, il se propose de mettre en valeur ces pays, ces régions incultes, en quelque sorte. Ainsi, l'impératrice Catherine II leur accorde la liberté de culte, d'abord parce qu'il y voit l'intérêt de la Russie, et aussi parce qu'il y voit une occasion d'affaiblir un voisin dont elle redoute de plus en plus la montée, justement la Prusse en l'occurrence. Ainsi, des colonies mennonites s'installent au sud de la Russie et vont subsister jusqu'à nos jours pratiquement. C'est-à-dire jusqu'à la fin du régime marxiste, du régime communiste dans les années 80. Après, ils vont conserver la langue allemande, ce qui est tout à fait intéressant. Et de nos jours, n'est-ce pas, la plupart d'entre eux sont revenus en Allemagne. Ils ont quitté la Russie pour revenir en Allemagne. Les plus pauvres sont les premiers à partir, et c'est d'abord 228 familles qui vont s'établir dans la région du Dniepr. Puis ensuite, d'autres groupes protestants vont agir de la même manière, des piétistes, par exemple des piétistes qui vont être persécutés dans le cadre du Kulturkampf dans le Württemberg, vont aussi partir en Russie. Et eux vont aller alors, des luthériens aussi finalement, il y aura aussi des luthériens qui iront s'établir en Russie, et ils partiront en Crimée, en Volga, dans le Caucase, et jusqu'en Sibérie, et même jusqu'au Turkestan, jusqu'aux confins de la Chine. Mais dans ces groupes-là, qui au départ étaient des groupes extrêmement spirituels, le niveau spirituel ne va pas tarder à baisser et l'ivrognerie, par exemple, va faire des ravages extrêmement importants. Et heureusement, le Seigneur va susciter ici des réveils au sein de ces communautés de langue allemande en Russie. Et notamment, en 1841, un réveil aura lieu sous l'intervention d'un pasteur qui se nomme Édouard Otto Hugo Wist, Wist, qui a d'abord mené une vie dissolue, qui était devenu pasteur, bien qu'ayant une vie dissolue, puis qui va, au contact des piétistes, se convertir véritablement. Et grâce à lui, les communautés allemandes de Russie vont connaître un véritable réveil. Jusqu'en 1859, date de sa mort, à 42 ans d'ailleurs, il meurt extrêmement jeune. Outre ces gens-là, il y a aussi alors différents mouvements qui vont s'installer en Russie, puis de là dans les pays balkans, des Balkans. Déjà, en 1812, le tsar Alexandre Ier avait encouragé en Russie le développement des sociétés bibliques. Et la diffusion de la Bible avait bien sûr préparé la pénétration non plus seulement de communautés maintenant étrangères qui viennent s'installer en Russie, mais véritablement de l'évangélisation du peuple russe. Et l'introduction de la Bible en russe, donc dans ce pays, va provoquer au sein de l'Église orthodoxe elle-même un véritable réveil. Il faut dire qu'à l'inverse de l'Église catholique, l'Église orthodoxe a toujours été ouverte au réveil. Et périodiquement, l'Église orthodoxe a été marquée par des réveils, y compris des réveils de type charismatique d'ailleurs, n'est-ce pas? Et il y a une place pour ça, n'est-ce pas, dans la piété orthodoxe, dans la théologie orthodoxe, il y a place justement pour un véritable réveil de conversion, de rencontre avec Dieu, de piété personnelle que l'on ne trouve pas justement dans l'Église catholique. Mais il faut dire que à cette période-là, le haut clergé prend ça assez mal et va finir par faire en sorte que il soit extrêmement difficile de trouver la Bible en Russie. Ce sera le cas jusqu'à la Révolution russe, n'est-ce pas ? Il sera extrêmement difficile de trouver des Bibles en Russie. Finalement, la Russie va être évangélisée à partir des colons allemands, et notamment ceux qui étaient autour d'un certain Standen, d'où le nom de standiniste qu'on leur donne, qui sont marqués par le réveil de Plymouth, de Derby, et qui, comme Derby, pensent qu'il faut abandonner les églises pour créer des assemblées de frères, des réunions de frères, dans lesquelles on pratique le baptême des adultes, à l'inverse de ce qui se passe évidemment chez Derby. Et finalement, là aussi, réaction du clergé orthodoxe, et la liberté n'est laissée qu'aux colons allemands. La liberté religieuse ne vaut que pour les colons allemands. Mais dans ce cadre-là, il y a aussi bien des chrétiens étrangers qui visitent la Russie à cette période-là. Et c'est ainsi qu'un certain William Allen, qui visite Saint-Pétersbourg à cette période-là, offre une Bible au tsar Alexandre Ier, qui n'avait jamais vu de Bible de sa vie. Il a 42 ans quand, pour la première fois, on lui fait cadeau d'une Bible. Un Écossais du nom de Melville devient agent de la société biblique qui diffuse la Bible en Russie. Et il va travailler pendant de très nombreuses années, d'une manière infatigable, à la diffusion de la Bible pendant les quelques années où c'est encore possible, en restant célibataire d'ailleurs, pour pouvoir se consacrer plus librement à sa tâche. Citons aussi en 1866 un évangéliste de la haute aristocratie anglaise qui quitte tout, il s'appelle Lord Fastrock, et il vient évangéliser l'aristocratie russe à Saint-Pétersbourg, n'est-ce pas ? Il forme d'ailleurs des petits conventicules qui ne se qualifient pas d'église, qui restent à l'intérieur de l'église orthodoxe, parce qu'il s'est rendu compte qu'il est impossible de rompre avec l'église orthodoxe. Donc, comme l'église orthodoxe offre une certaine latitude, eh bien, il crée des petits conventicules à l'intérieur de l'église orthodoxe où il prêche librement l'évangile et où véritablement des gens se convertissent à fond. Il va dilapider toute sa fortune pour distribuer en particulier la Bible, et ce n'est qu'en 1860 qu'il est l'objet d'un bannissement, et une partie de ses biens est confisquée quand on se rend compte qu'il a cette activité si profonde. Il se rend en Pologne, où il va se joindre à des baptistes allemands qui sont venus nombreux en Pologne aussi à cette période-là. Et à partir des baptistes polonais, il va y avoir une évangélisation de la Russie qui va se faire, notamment après le démembrement de la Pologne entre la Prusse, l'Autriche et la Russie. Dans la partie russe de la Pologne, il y aura donc possibilité d'entrer en contact avec les Russes de souche, et ça va être le début des églises baptistes russes. Les églises baptistes russes vont naître à partir de cette période-là. L'évangélisation sera donc possible jusqu'à l'assassinat du tsar. Et là, tous les étrangers sont suspectés et l'église baptiste va être persécutée à partir de cette période-là. Les baptistes créent aussi de nombreuses écoles qui diffusent l'évangile un peu partout. Et ça va provoquer des réactions extrêmement brutales aussi du pouvoir russe qui, en 1813, fait enlever des enfants dont les parents se sont convertis et pour les faire élever dans des couvents dans la religion orthodoxe traditionnelle. Il y a aussi une véritable chasse aux dissidents, aux sectes, comme on les appelle à cette période-là en Russie, c'est pas nouveau. Et alors, la Tchéka, la police du tsar, la police secrète, dresse des listes des sectaires. Et ceux qui sont inscrits sur cette liste sont privés de leur travail, sont parfois carrément emprisonnés ou exilés en Sibérie. Et ce sera aussi le début de quand ils sont libérés, ils restent parfois sur place et ils vont prêcher l'évangile là où ils se trouvent. finalement, les baptistes finiront par être mieux traités que ce que l'on appelle les chrétiens évangéliques, parce qu'ils ne sont pas organisés. Et le gouvernement ne peut pas avoir de prise sur eux. Et c'est ainsi que, malgré les persécutions de la police secrète, les ex-baptistes vont progresser en Russie. Le pouvoir va les sommer de s'organiser, elle refuse de le faire. Et en 1923, donc un petit peu plus tard, au début de ce siècle, les églises baptistes russes vont être épaulées par les baptistes allemands. Bon, les baptistes allemands vont être extrêmement nombreux à cette période-là. C'est en 1800 que le baptisme a été introduit en Allemagne par l'intermédiaire d'un certain Gerhard Onken, Onken, qui sera, dont il y aura un fils qui jouera un rôle assez négatif parce que son fils va intervenir, va prendre parti contre Napoléon. Il va participer au mouvement de résistance à Napoléon, tant et si bien que toute la famille devra s'exiler pour des raisons politiques quand Napoléon sera en Allemagne. Et Onken s'enfuit en Argentine. À cette époque-là, il décide de revenir en Allemagne quand Napoléon est renversé. Il revient en 1823 à Hambourg, où il va prêcher le baptisme. Et là, on l'accuse de répandre la religion anglaise. Le baptisme est considéré comme une religion étrangère en Allemagne. Et en 1823 aussi, il est revenu non seulement comme agent du baptisme, mais également comme agent de la société biblique, qui distribue aussi 2 millions de Bibles en l'espace de quelques années en Allemagne. L'église baptiste qu'il organise est qualifiée de secte. Et vous, c'est rien de nouveau sous le soleil. Et il va avoir le renfort, n'est-ce pas, d'un fils d'un rabbin juif qui s'est tourné vers Jésus-Christ. C'est un rabbin danois, au demeurant, il s'appelle Julius Kebiner, qui créera la première église baptiste à Berlin. Lui aussi sera persécuté et il faudra attendre 1856 pour que les baptistes en Allemagne puissent être véritablement tolérés. Dans les autres pays de l'Est de l'Europe, Hongrie, Yougoslavie, donc Serbie, si vous voulez, les pays baltes, la Bulgarie, la Roumanie, l'évangélisation va être le fait de ce qu'on appelle les Nazaréens. Les Nazaréens sont une branche des églises méthodistes. Je sais que les églises méthodistes se sont divisées en beaucoup de tendances diverses. Les Nazaréens sont une d'entre elles. Et les Nazaréens ont ceci de particulier, justement, par rapport aux autres méthodistes, c'est qu'ils sont comme les Ménonites pacifistes et refusent de porter les armes. Et ils sont établis en Suisse à cette période-là. Ils ont été établis par un certain Frielich, je ne sais pas comment on dit ça, Frielich. Alors, Frielichcht. Frielichcht. Frielich, bon. Qui d'ailleurs est destitué de sa charge de pasteur en 1830 à cause des expériences spirituelles qu'il a faites, et qui évangélise la Suisse jusqu'en 1857 où il meurt. Et à partir de là, il s'oppose aussi au service militaire et à tout ce qui est armes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il va être persécuté, parce que la Suisse, bien qu'étant un pays pacifiste, est un pays qui a une armée extrêmement puissante. Et bon, il a des problèmes aussi avec l'Église nationale, avec les Moraves, et le réveil qu'il prêche est reçu d'une manière très diverse par les anciens des églises au sein desquelles il se rend. En 1830, il est déposé. Et c'est juste le moment où un Hongrois vient de se convertir à son contact. C'est la raison pour laquelle il va se rendre en Hongrie. Chassé de Suisse, il se rend en Hongrie. Et là, il va prêcher l'évangile à Budapest. Le réveil se répand dans toute la Hongrie, jusqu'aux frontières de la Turquie. Même si un certain nombre de ses adeptes sont jetés en prison, notamment parce qu'ils refusent de porter les armes, c'est toujours le problème. Partout se créent des églises informelles qui se répandent dans la vallée du Danube et dans les Balkans. Et c'est ainsi que, profitant justement de cette situation où les États orthodoxes se libèrent du joug turc, eh bien, les Nazaréens vont prêcher l'évangile dans ces pays-là. Alors, nous avons là un champ de mission nouveau qui s'ouvre, si vous voulez, dans les églises évangéliques et protestantes, et qui donc s'étend jusqu'à aujourd'hui dans tous ces pays, notamment en Russie, et l'origine de l'importante église baptiste de Russie remonte à là. Le 19e siècle, c'est aussi l'époque où on va reprendre conscience aussi de la place des Juifs dans le plan de Dieu. Et là, il va y avoir aussi un renouveau d'intérêt pour l'évangélisation des Juifs. Le réveil de Genève a commencé à attirer l'attention sur ces choses, puis Darby, lui aussi, va redécouvrir à fond la place d'Israël dans le plan de Dieu. Et tant justement le réveil de Genève que le réveil de Darby annonce le rétablissement d'Israël, le rétablissement de l'État, etc., etc., et prépare donc aussi ce que sera le sionisme moderne. Et dans cette perspective, dans l'attente justement de ce rétablissement d'Israël, qui sera une des grandes marques de la fin, selon ce que prêchent les promoteurs de ce mouvement, on comprend qu'il y a une nécessité de prêcher l'évangile aux Juifs. Et c'est ainsi que différents mouvements de mission au milieu des Juifs vont naître à partir de cette période-là. Un des phénomènes les plus intéressants de cette période-là, c'est le réveil qui va naître en Bessarabie, parmi les Juifs de Bessarabie, sous l'instigation de Yosef Rabinovitch. Yosef Rabinovitch était un homme qui était conscient de vivre les temps de la fin, et l'église qu'il avait fondée, il l'a désignée comme la première figue du figuier d'Israël qui refleurit. Enfin, la première figue qui refleurit. Yosef Rabinovitch était un adepte. Où nombre de Juifs étaient touchés justement par le mouvement d'émancipation, le mouvement des Lumières du XVIIIe siècle. Il était né le 1er septembre 1837 d'une famille de rabbins en Bessarabie. Il était très jeune quand sa mère est morte et il a été élevé par son grand-père maternel. Son grand-père maternel, lui, était au contraire un adepte du chassidisme, ce mouvement mystique qui était né en Europe centrale au siècle précédent. Et en 1855, donc, son oncle meurt. Donc, le jeune Joseph se trouve, en quelque sorte, une deuxième fois orphelin. C'est l'époque où, justement, les idées des Lumières touchent la Bessarabie, et le touchent lui aussi. Il lit en particulier les écrits d'un certain Mendelssohn, qui a été un des grands promoteurs des idées des Lumières au sein du judaïsme, qui a été une véritable catastrophe à ce niveau-là, qui est le fondateur de ce qu'on appelle le judaïsme réformé. Et alors que le jeune Joseph vient d'avoir 18 ans, il s'écarte à fond du chassidisme pour se tourner vers les idées modernes. Voilà. Il se marie à 18 ans, et peu après son mariage, il va s'intéresser à la Kabbale. Et c'est là qu'il va donc revenir à fond au judaïsme. Et là, il va connaître... il devient donc responsable d'une communauté à Kitchinev au moment où éclatent les pogroms. Les pogroms des tsars, des orthodoxes, des cosaques. Et un soir, donc... Les Cosaques s'abattent sur la communauté de Rabinovitch et tuent, massacrent, pillent, incendient, etc. Alors, le soir, les survivants se rassemblent et c'est une véritable catastrophe, n'est-ce pas ? Et c'est alors que il va décider de ce qui sera finalement le tournant de sa vie, le tournant de son ministère. Il avait déjà eu un Nouveau Testament peu après son mariage, qui lui avait été donné par un des pasteurs de Kitchinev. Et il l'avait lu, mais ça ne l'avait pas spécialement touché. Il était devenu juriste aussi entre-temps, et Il avait une carrière importante à ce niveau-là. Mais donc, quand les pogroms éclatent en 1871 à Kitchinev, là, il est bouleversé. Il est bouleversé. Et là, d'ailleurs, cette année-là aussi, sa fille est morte, une de ses filles est morte du choléra. Donc, il est dans une situation de détresse très grande. Il a des contacts aussi avec différents mouvements juifs. Il se pose la question, pourquoi la souffrance d'Israël? Pourquoi la souffrance d'Israël? Alors, il décide de partir pour Jérusalem et de chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu réponde à cette question. C'est aussi l'époque de l'indépendance de la Serbie, et Rabinovitch pense qu'éventuellement le peuple juif pourrait suivre le même chemin. Pourquoi finalement le peuple juif ne redeviendrait-il pas lui aussi un État indépendant? Et Rabinovitch va être sioniste, si on peut dire, avant la lettre. Il préconise aussi un retour des juifs en Israël pour se livrer à l'agriculture. En 1874 et 1876, deux fils lui sont nés, David et Nathan. Et bien qu'il ne soit pas véritablement, il n'ait pas le titre de rabbin, il en a la fonction. Il en a la fonction. C'est un homme polyglotte aussi. Et c'est alors qu'en novembre 91, il décide de partir pour Israël. Et là, il ne sait pas très bien ce qui va lui arriver. Il loue une petite maison sur le mont des Oliviers. Il prie, il étudie dans les yeshivot, etc. Et un soir, n'est-ce pas, sur le mont des Oliviers, il a une vision. Il a jamais été très très disert sur cette vision. Il n'a pas donné beaucoup de détails, mais il a simplement dit que lui est apparu celui qu'il a appelé depuis lors notre frère Yeshua. Jésus lui est apparu, s'est révélé à lui comme le Messie, et lui a révélé que bon, les souffrances d'Israël étaient le résultat du rejet de Jésus, mais que ce temps touchait à sa fin, et que Rabinovitch et ceux qui le suivraient pouvaient croire en lui tout en gardant leur identité juive. Et ça, c'était vraiment la grande révélation que Rabinovitch a eue sur le monde des Oliviers. Il faut dire que d'ailleurs, il a eu cette vision au moment où il était en train de lire le Nouveau Testament, ce Nouveau Testament qui lui avait été donné par ce pasteur quelques années auparavant, qu'il avait emmené avec lui, qu'il n'avait jamais plus rouvert. Et là, n'est-ce pas, il a lu le Nouveau Testament et c'est là qu'il a eu cette vision de notre frère Yeshua. Alors, Rabinovitch tient sa découverte secrète pendant tout un temps. Et puis, de nouveau, pogroms éclatent. Et des restrictions sont imposées aux Juifs qui ne peuvent plus habiter hors des villages. Et alors, beaucoup d'entre eux vont fuir la Russie pour venir en Israël. C'est le début du mouvement de ce qu'on appelle les Amants de Sion. Dès cette période, 17 000 Juifs émigrent aux États-Unis. Une petite partie vient en Israël. Et Rabinovitch aussi, qui est sur place, profite pour étudier sur place avec ces gens-là les possibilités d'implantation. Lui-même entendait créer une colonie agricole en Bessarabie, il avait l'intention de revenir chez les siens. Et finalement, il revient en Bessarabie sans avoir obtenu l'autorisation du gouvernement du Tsar de créer cette colonie agricole parce que la situation politique ne s'y prête pas. Et chose aussi intéressante, avant son départ de Jérusalem, il est allé voir ce qu'on appelle un rabbin miraculeux. Il y en a beaucoup à cette époque-là dans le courant du chassidisme. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec ce rabbin miraculeux? Est-ce qu'il va rendre témoignage? Est-ce que ce rabbin miraculeux a cru en Jésus? Toujours est-il, n'est-ce pas, que Rabinovitch lui aussi va devenir charismatique, on peut dire, à partir de ce contact qu'il a eu avec ce rabbin miraculeux. Il passe par Constantinople à son retour, et là il va devenir assez pessimiste sur les possibilités du rêve sioniste quand il se rend compte que les Turcs empêchent et bloquent tout retour des Juifs de quelque importance là-bas, quoi. Par contre, il est attiré par le plan de Lord Oliphant, qui est un Anglais, c'est le plan Gilad, qui consiste à mettre en valeur le nord de la Transjordanie. Et bon, pendant un temps, Rabinovitch pensera transférer son œuvre en Israël, venir avec tous ses disciples s'installer en Israël. Et puis, finalement, ça ne se concrétisera jamais. Et là, donc, il déclare que la connaissance du Nouveau Testament est la clé de l'entrée du retour en Terre Sainte. Lui, il pense que, au préalable, il faut évangéliser les Juifs en attendant le temps où le Seigneur les ramènera en Sion, parce que pour le moment, il estime qu'humainement, l'entreprise est absolument irréalisable. Et au moment où il fait cette découverte, d'ailleurs c'est très intéressant, cette découverte de Jésus sur le mont des Oliviers, la première chose qu'il fait, c'est d'écrire ce qui lui est arrivé à son fils aîné qui est étudiant à Saint-Pétersbourg. Et il s'inquiète un petit peu de savoir comment son fils va recevoir cette nouvelle. Et à sa grande surprise, n'est-ce pas, ce dernier reçoit favorablement cette nouvelle. Il dit, ben écoute, la réponse qu'il reçoit de son fils quelques jours après, c'est si, bien papa, moi j'ai fait la même expérience. Le père et le fils sont unis, n'est-ce pas, dans la découverte de Jésus. Et son fils, donc, sera son collaborateur. Il avait d'ailleurs pensé qu'il pourrait lui succéder. Et puis, malheureusement, son fils mourra prématurément, ce qui sera d'ailleurs un grand drame dans la vie de Yosef Rabinovitch. Donc, il revient en Bessarabie et là, il va créer donc l'Église de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance est basée sur le texte d'Ésaïe 31, de Jérémie 31. Je ferai dans ce temps-là, avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Et là, donc, il va prêcher l'Évangile aux Juifs. Alors là, bon, il va connaître une grande opposition dans un premier temps. Les Juifs se lèvent contre lui. C'est un Juif renégat. Il s'est converti d'ailleurs grâce à la Kabbale, dans lequel on trouve des embryons de la doctrine chrétienne. On l'accuse d'avoir changé de religion, d'avoir été payé pour les missions, pour toutes ces choses. Et le 2 octobre 1893, il publie les 13 thèses. Alors, pourquoi 13 thèses? Parce que elles font pendant aux 13 articles de foi de Maïmonide, qui sont à peu près le credo, si vous voulez, du judaïsme orthodoxe. Et face aux 13 thèses de Maïmonide, Rabinovitch écrit les 13 thèses de la Nouvelle Alliance, dans lesquelles, justement, il montre que Jésus est le Messie. Le préambule, il rejette les accusations qui sont portées contre lui, savoir qu'il a fait s'est converti pour de l'argent, pour des intérêts quelconques. Et il déclare que l'état malheureux des Juifs ne peut s'améliorer jusqu'à leur régénération spirituelle et morale. Et par conséquent, il les invite à se tourner vers Jésus. On va même l'accuser d'antisémitisme. Il sera plus d'une fois molesté, sa voiture arrêtée, il sera battu, lapidé, etc. Une de ses thèses dit ceci: si nous nous tournons vers notre frère Yeshua, les nations verront que nous avons changé et favoriseront notre retour à Sion. Voilà son sionisme. Voilà ce qu'était sa vision. Dans cet article-là est exposé sa vision. Il faut d'abord que les Juifs reviennent à Jésus et après ils reviendront en Sion. Bon, là, il se trompait. Et il demande à Dieu, il considère que l'acceptation de Jésus comme le Messie redonnera au peuple juif la faveur de Dieu, mettra fin à toutes les souffrances d'Israël et disposera favorablement les nations à leur égard pour que d'abord les nations rendent aux juifs l'égalité des droits politiques et ensuite les ramènent à Sion. D'abord, il s'attend à un retour massif des Juifs dans ce domaine-là. Et puis enfin, il se rend compte que là, il se heurte à une opposition et il va donc comprendre qu'il faut créer quelque chose de séparé, en quelque sorte une église. Et d'abord, il avait essayé simplement de prêcher dans sa communauté, etc. Puis finalement, bon, une partie croit, mais une partie s'oppose aussi. Et alors, c'est là que va naître donc l'église, l'assemblée de la Nouvelle Alliance. On verra si vous voulez la prochaine fois.